Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Je suis Moussa Pondé pour le journal.
Il est 12h à Kinshasa. Voici les titres de cette édition. Libération hier à Goma de quelques membres de la Lucha et du RASOP arrêtés lors de la marche interdite du 30 novembre dernier. Le porte-parole de l'opposition Nord Kivu déplore cependant des cas de torture subis par certains d'entre eux durant leur détention. Tension depuis hier à l'université de Bunia. Les étudiants exigent au gouvernement central de rembourser le commerçant ayant acheté chez le bâtiment abritant cette institution. Ces étudiants sont aux arrêts. Concert sur le thème « Paix pour tous » le week-end dernier à Kamina, une organisation de la MONUSCO pour appeler la population à cultiver la paix, l'unité, la tolérance et la non-violence. Nous en parlons dans notre dossier en seconde partie du journal. Bonjour à tous. Ce journal part du Nord Kivu. Le parquet de grande instance de Goma a ordonné hier mardi la libération de plus de 30 personnes de la prison Munzenze. Parmi elles, les opposants politiques arrêtés lors de la manifestation interdite du 30 novembre dernier, ainsi que le jeune militant des mouvements citoyens. Le porte-parole de l'opposition Nord Kivu dit que ces personnes sont traumatisées de suite des sévices qu'ils ont subis lors de leur interpellation. Pour Jean-Baptiste Kasekwa, l'autorité urbaine devrait assumer l'entière responsabilité pour avoir interdit la dite manifestation publique. Freddy Bikumbi nous en dit plus.
C'est hier mardi qu'on a assisté à cette série de relaxations de personnes arrêtées par la police congolaise suite aux manifestations du 28 et du 30 novembre dernier en ville de Goma. Parmi ces personnes, il y a d'abord les 6 opposants politiques, dont 5 de l'UDPS et 1 de l'UNADEF. Ensuite, le 22 jeunes du collectif des associations de la société civile dont Lucha et Filimbi qui ont passé 8 jours en prison. Enfin, les groupes de 36 manifestants indépendants interpellés par la police au cours de la journée du 30 novembre à Goma et qui étaient au cachot de la police des polices. Les derniers parmi ceux-ci ont été relaxés hier mardi dans la soirée. Jean-Baptiste Kasekwa du Rassemblement de l'opposition Nord Kivu a déclaré que ces personnes ont subi des tortures au cachot de la police et que l'autorité urbaine devra répondre devant la justice du fait d'avoir interdit la marche qui était pacifique. Goma, Freddy Bikumbi, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, au lendemain de l'adoption du projet de loi électorale par l'Assemblée nationale, les opposants aux membres du gouvernement Tshibala se sont réunis hier autour du président du Conseil national de suivi de l'accord, Joseph Olenga-Nkoy. Ses ministres, à l'exception du Premier ministre Bruno Tshibala, ont évalué avec Joseph Olenga-Nkoy la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, plus particulièrement l'adoption du projet de loi électorale à l'Assemblée nationale. Rien n'a filtré de cette réunion. Des indiscrétions recueillies auprès de quelques participants à cette rencontre révèlent cependant que le projet de loi déposé à la Chambre basse du Parlement par Bruno Tshibala n'est pas celui qui avait été adopté au Conseil des ministres. Michel Kifindangoy.
L'examen et l'adoption du projet de loi électorale par l'Assemblée nationale continuent à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Après le boycott par l'opposition parlementaire de la séance au cours de laquelle le texte a été voté, c'est au tour de l'opposition gouvernementale de se positionner face notamment à ce projet de loi controversé. À l'issue de leur réunion, rien n'a été dit officiellement. Pour les participants, la primeur des retombées de cette rencontre est réservée au chef de l'État, comme le souligne ici Joseph Olenga-Nkoy.
Conformément à l'accord, nous avons droit à une concertation, surtout que nous sommes vers la fin de l'année. Nous devons faire un bilan d'ensemble sur la marche de la République. C'est à ce cadre-là que les ministres sont venus pour nous permettre de faire l'évaluation de l'accord. Et aujourd'hui, ce processus qui est tant attendu par notre peuple devient irréversible. Que nous avons aborder toutes les questions d'intérêt national. La primaire de mes entretiens, je le dois au président de la République.
Toutefois, certaines indiscrétions recueillies auprès de quelques membres du gouvernement présents à cette réunion renseignent que le texte de loi déposé à l'Assemblée nationale par le Premier ministre est différent de celui adopté en Conseil des ministres, d'où leur sentiment d'avoir été trahi.
Pendant ce temps, la nouvelle société civile congolaise exprime sa préoccupation suite au manque de consensus constaté lors de l'adoption de la loi électorale par les députés. Pour son président, cette manière de faire n'a qu'un seul objectif, asseoir la dictature dans le pays. Jonas Tshombela estime que la classe politique congolaise est en train de s'éloigner de l'esprit de consensus qui a prévalu lors de la signature de l'accord de Sun City et de celui du 31 décembre 2016. Jonas Tshombela au téléphone de Pelikipelamondo.
Au niveau de la nouvelle société civile congolaise, nous sommes extrêmement préoccupés du fait qu'il n'y a pas eu consensus autour de cette loi. Nous craignons que la dictature dans notre société commence par des petites choses comme celle-là. Il faudra qu'une loi qui doit engager une grande compétition, des grandes forces politiques, et tout le monde doit accepter cette loi-là qui est consensus. Donc nous, au niveau de la nouvelle société civile congolaise, nous avons même produit un travail là-dessus. Nous ne partageons pas le point de vue de ceux qui ont adopté cette loi. Parce que cette loi tente d'exclure les électeurs dans le processus des choix de leurs représentants. Une telle manière de faire, c'est une sorte de dictature qui essaie de s'implanter doucement. Il faudra que nous puissions faire attention parce que le seuil de représentativité tel qu'il est prévu 20% là, ça ne veut rien dire juste à l'absence du consensus. Sinon, nous sommes en train de rompre le consensus de l'accord de Sun City.
Rendons-nous à présent en Ituri. Les activités sont paralysées depuis hier mardi à l'université de Bunia après des accrochages entre policiers et étudiants. Ces derniers manifestaient pour exiger au gouvernement central de rembourser l'argent du commerçant qui a acheté l'actuelle installation de cette université publique. L'intervention de la police est soldée par des casses selon les autorités académiques. Ce que rejette le commandant de la ville de Bunia. Le point dans ce reportage de Marcel Kiza.
Les étudiants ont commencé à manifester vers midi dans l'enceinte de cette université à Brillant de Pnin. Quelques heures après, selon eux, ils ont vu des policiers débarquer à l'intérieur de leur campus pour les pourchasser. Ce qui confirme les autorités académiques qui déplorent la répression de la police qui a occasionné la perte de plusieurs biens de l'université et des étudiants. Professeur Jean-Faustin Simba, secrétaire général académique, donne le bilan.
Du côté des hommes des étudiants, en tout cas, on a cassé les vitres, toutes les portes sont par terre, les fenêtres sont par terre, les étudiants ont perdu beaucoup de leurs effets, les ordinateurs, l'argent, tout était dehors, ça frise un peu un acte de vandalisme intolérable. On a cassé la salle informatique, on a cassé les ordinateurs qui contenaient beaucoup de données de l'université.
Les commandants vifs de la police déclarent qu'ils sont intervenus pour disperser les étudiants qui commençaient à troubler l'ordre public dans les parages de leurs installations, notamment en obstruant la circulation derrière le campus et en caillassant certains véhicules. Le colonel Prosper Nzombo précise que et ses hommes n'ont apporté aucun bien. Il confirme cependant l'arrestation de cet étudiant pour des raisons d'enquête. Les autorités académiques réservent le droit de saisir la justice militaire pour que réparation soit faite. Bunia, Martial Kiza, Biamongo, Radio Kapi.
Côté enseignement primaire au Kasaï oriental, les enseignants des écoles de la cité de Chilenge sont en grève depuis près de 2 semaines et demie. C'est la suite au non-versement de leur salaire du mois de novembre dernier. Il se poserait également un problème de frais de fonctionnement de ces écoles, une enveloppe qui n'arrive pas depuis 14 mois. La société civile locale fustige cet état des choses et recommande à l'État de trouver solution aux revendications des enseignants afin de ne pas hypothéquer l'avenir des enfants de Chilenge. Jean-Claude Ngandou est joint par Chris Mukond.
Au chef-lieu du territoire de Chilenge, les enfants sont abandonnés à leur triste sort. C'est-à-dire, depuis le 20 novembre, ils ne fréquentent pas les écoles. La cause est que les enseignants sont en grève. Ils réclament le paiement de leur salaire du mois de novembre et ils réclament les frais de fonctionnement de plus de 14 mois de leurs écoles respectives, y compris aussi les services de l'ETFC dans le territoire de Chilenge. Alors, depuis ce 20 jusqu'alors, nous totalisons déjà 2 semaines et demie que les enfants sont abandonnés. Nous ne savons pas quel avenir nous voulons préparer pour ces enfants et qu'est-ce que nous leur donnons comme bagage intellectuel. C'est ainsi qu'en tant que société civile, je lance un cri d'alarme en demandant au gouvernement national de s'impliquer pour...
Notez que le directeur de la province éducationnelle Kasaï Oriental se trouve en ce moment à Chilenge. Il dirige une importante réunion avec le syndicat des enseignants afin de trouver une solution à cette crise. Parlons également de cet apport de l'UNICEF aux sous-divisions scolaires de Dibaya 2, Dimbelenge 1 et Yangala dans les Kasaï centrales pour soulager parents et élèves après la crise née du phénomène Kamuinansapu. À 18 tonnes de kits scolaires et récréatifs dont de l'UNICEF ont été distribués en début de cette semaine aux élèves de cette partie du pays par la division provinciale de l'éducation. C'est notamment des cahiers, des stylos, des ballons de football, des cordes à sauter ainsi que des uniformes. Les directeurs provinciaux de l'éducation au Kasaï centrales indique que ce projet est une réponse au plaidoyer mené auprès des bailleurs après la crise qui a secoué cette partie du pays. Simon Zono, au micro de Blaise Ndongala.
Ça, c'est pour apporter un ouf de soulagement aux parents, pour alléger leurs charges financières pour la scolarisation de leurs enfants. Qu'en dehors de cette cargaison des 18 tonnes de kits qui sont partis, l'UNICEF nous a aidé aussi à organiser ce que nous appelons l'accompagnement psycho social de 25 enseignants dans la sous-division de l'USA 2, mais aussi dans le cadre de la coopération UNICEF-RDC, nous a appuyé également et nous avons organisé 3 ateliers de formation à l'USA 2, à Dibaya 2 et à Dibelenge 1 pour la mise en œuvre des programmes de la réforme, je voulais dire, en compétences en courante.
Direction Kisangani, où la Caritas diocésaine appelle les chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté à contribuer volontairement en nature ou en espèces au profit des populations en difficulté. Cet appel a été lancé hier par le coordonnateur de la Caritas diocésaine au cours d'un entretien avec la presse locale. L'appel intervient en marge de la célébration le dimanche dernier de la journée Caritas, décidée par les évêques de l'Église catholique universelle depuis 2012. Le coordonnateur de la Caritas de l'archidiocèse de Kisangani évoque notamment le cas d'environ 5000 déplacés d'Opiengé qui ont fui les affrontements la semaine dernière entre les FARDC et les Maïmaï de Luc Yabili. L'abbé Richard Watoko au micro de Dorcas Kankou.
Les fonds de solidarité, soit au niveau diocésain, soit au niveau national, peuvent aider également à secourir ces gens qui sont grandement dans le besoin. Les besoins qui se déchiffrent en eau et en nourriture. Et pour la population en déplacement, il y a à Bafoutine de plus de 2000 personnes, à Bafabalinga entre plus de 2000 personnes et au PK 221 plus de 1000 personnes. Les familles d'accueil sont presque étouffé et il y a aussi une population qui est en route vers Kisangani. Vous voyez, si la Caritas était en possession de fonds de solidarité, elle n'attendrait pas commencer à crier pour venir en aide à ces gens. Pour le moment, je voudrais vous dire que ces gens sont sans assistance et il s'avère vraiment nécessaire et même urgent à toutes les personnes de bonne volonté, aux partenaires techniques et financiers, de pouvoir soutenir la Caritas, ou peut-être, s'ils œuvrent eux-mêmes dans l'humanitaire, de venir en aide à ces personnes qui sont pour le moment en difficulté.
Pendant ce temps, dans la province du Olomami, le cadre de concertation de la société civile de Bukama lance un SOS aux autorités nationales pour la réhabilitation du pont Lualaba, jeté sur le fleuve Congo, situé non loin de la cité de Bukama. À ses conférences mercredi à Radio Capi, le coordonnateur du cadre de concertation de la société civile annonce que ce pont, qui est long d'environ 250 mètres, construit depuis l'époque coloniale, menace de s'écrouler depuis quelques jours. Augustin Monga précise que cette situation va affecter le trafic de marchandises entre Lubumbashi, Kamina et les provinces du Kasaï. Il est joint par Paul Mounanga.
Le pont est situé sur le fleuve Congo, à 4 km de Bukama, sur la route nationale numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Ça fait autant de jours que les tôles se sont détachées. Et quand les tôles se détachent, elles laissent directement le passage vide où les camions ne peuvent plus encore passer. Alors, nous avons trouvé que hier, il y a eu 3 camions qui ont échoué de passer et ça crée directement un blocage. C'est ainsi que nous prions aux autorités qui nous attendent, afin qu'il y ait une bonne solution pour qu'il y ait le passage. Sinon, ce sera un blocage. Donc, c'est un pont de transit. Pour passer, aller de Kamina à Lubumbashi, il faut passer par ce pont là-bas. Et comme il y a maintenant blocage, c'est difficile que les camions puissent ravitailler la population. Bon, il y a des camions qui prennent le marchandise de Lubumbashi vers Kamina. Et Kamina, directement Kasaï. Et Kasaï vers Kamina et Kamina à Lubumbashi. Donc, pour le moment, il n'y a plus encore cette circulation-là.
<t'-> L'actualité, c'est aussi cette inquiétude de la communauté scientifique de l'ULE sur le débat de la révision du code minier à l'Assemblée nationale. Roger Gaïtier, recteur de l'université de l'ULE, dénonce la durée de 5 ans pour stabiliser les entreprises minières proposées par les députés nationaux, la surtaxation et les dédoublements de la loi dans les secteurs miniers. Roger Gaïtier s'est ainsi exprimé hier mardi au cours d'un point de presse ici à Kinshasa. Selon lui, la durée des 5 ans ne favorise pas l'épanouissement des entreprises, mais si entraîne par contre la pauvreté des communautés locales. Roger Gaïtier au micro de Paul Matendo.
On est quelque peu inquiet, mais un peu choqué aussi de voir que le niveau de débat tel qu'il se passe aujourd'hui au niveau du palais du peuple, il y a des considérations scientifiques qui ne sont pas forcément prises en compte. Il est impossible aujourd'hui qu'on puisse dire que 5 ans soient suffisants pour stabiliser une compagnie minière qui s'implante. Je ne vais pas aller partout, je prends le cas de la province du Haut-Ouélé, où on a des accès difficiles, on n'a pas d'infrastructure. Parfois, pendant des saisons, il faut attendre à un moment donné pour avoir accès à certains milieux. Donc, il faut un minimum de 8 ans. Donc, aujourd'hui, ramener cette période à 5 ans, c'est contraire aux données scientifiques que nous donnons à nos étudiants. Revenir à 5 ans, c'est tuer les entreprises. Et puis, en plus, il faut une stabilité des compagnies. Une compagnie qui vient commencer, il a besoin d'être sécurisé. S'il n'est pas sécurisé, il va partir. Aujourd'hui, faire fuir les investisseurs fera en sorte que nos populations deviennent encore plus pauvres que ce que nous croyons aujourd'hui.
Actualité Afrique Monde.
Nous sommes au Togo où l'opposition a annulé la marche prévue jeudi et a appelé à 3 nouvelles journées de mobilisation contre le régime du président fort Nyasingwe. Une coalition de 14 partis d'opposition organise des marches quasi hebdomadaires qui rassemblent des milliers, voire des dizaines de milliers de manifestants depuis début septembre pour demander une limitation rétroactive du mandat présidentiel et la démission du président fort Nyasingwe.